Radio Barque, notre 29e dans sa troisième partie, voit, comme je le rappelle, Marie Batte comme invitée, maire de Bages, deuxième mandat, Marie Batte, c'est ça ?
Deuxième mandat en tant que maire, troisième mandat en tant qu'élu.
En tant qu'élu, bien sûr, oui. Vous nous signaliez tout à l'heure combien vous avez déjà été impliqué dans le Parti Socialiste et dans la gestion de votre commune. Et puis vous faites également partie des vice-présidentes du Grand Narbonne, plus particulièrement chargé de la culture. Alors on va peut-être commencer par là, parce qu'il y a un gros événement qui se profile à la mi-mai, c'est le salon de livres et jeunesse. Qu'est-ce que c'est que ce salon qui a déjà ses lettres de noblesse, mais qui est renouvelé un petit peu chaque année, Marie Batte?
Alors sur ce salon, bon, comme vous le savez, le salon du livre du Grand Narbonne donc s'installe au printemps pour tous les publics sur le cours Mirabeau. Donc nous avons un partenariat, une convention avec la mairie de Narbonne pour cette organisation. Donc chaque année, il faut finaliser cette convention. Ça a été fait. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est toujours un pari culturel autour de la chaîne du livre, de l'auteur au lecteur, en passant par l'éditeur, le libraire. Il s'agit pour nous de construire un rendez-vous auquel la diversité littéraire est invitée. Elle génère des talents, des projets, des emplois. Ce salon du livre, c'est vraiment promouvoir la lecture, donner envie de lire à tous, toute génération réunie. Il y a à la fois donc 110 auteurs présents.
Voilà, des auteurs célèbres, des moins célèbres, mais qui n'enlèvent rien à leur valeur.
Il y aura donc un temps de dédicace, des espaces rencontres. Et puis, ce qui est peut-être important, dans un monde où on est, moi c'est ce que je remarque de plus en plus, dans un monde où on est beaucoup dans le virtuel, dans les échanges des réseaux sociaux, là nous sommes dans la proximité, dans la rencontre, et je pense que de plus en plus, les gens en ont besoin de ces lieux de rencontres et de médiation culturelle où on échange. Ce que je veux dire, et c'est une belle phrase de Michel Tournier, lisez, lisez, cela rend heureux et intelligent. Le salon du livre comme promesse de bonheur et d'intelligence, voilà une belle mission que je lui confie pour cette année. Donc ce salon du livre, bon, comme chaque année, il y a deux jours, le jeudi 11 et le vendredi 12, qui sont consacrés...
Mai.
Qui sont consacrés à la jeunesse. Toute l'année, il y a un travail avec les libraires, l'éducation nationale et le service culturel pour choisir certains ouvrages qui sont travaillés avec les élèves. Et à ce moment-là, ils rencontrent, lors du salon, les différents auteurs. Il y a les partenariats avec tous les équipements culturels du Grand Narbonne.
Et oui, puis, ça peut-être... se passe à divers endroits, précisons-le. Alors, sous chapiteau... sur le quai Mirabeau.
Mais également à la médiathèque, également au théâtre Scène Nationale. Et c'est tout comme lieu, mais en même temps, tout le monde y participe. Le conservatoire y participe, tous les équipements culturels font partie de ce salon du livre. Je voudrais peut-être insister sur ce que nous avons créé, qui est une originalité dans notre pays, la France, la création du réseau de lecture publique, parce que le réseau de lecture publique est vraiment un moyen de réduire l'éloignement du citoyen territorial, de la médiathèque qui est située à Narbonne, et permet donc à chaque citoyen d'accéder à tout ce qui est disponible au Grand Narbonne.
Alors moi, un petit mot d'explication là-dessus, le réseau de lecture publique, oui. Marie Batte. Un mot d'explication. Qu'est-ce que c'est que ce réseau de lecture publique? Comment ça fonctionne, on va dire?
En fait, le réseau de lecture publique, chaque commune y adhère avec une entrée différente. Ça peut être simplement l'agenda, ça peut être vraiment intégrer le réseau. Et là, nous avons vraiment une mise en commun des logiciels, et c'est un travail qu'ont commencé à faire les communes comme Le Cat, Gruissant, La Nouvelle. Et ça permet justement à une personne avec une carte unique qui est gratuite de se rendre dans la médiathèque de la plus proche de chez lui et de commander...
De sa commune, donc.
De sa commune, et de commander les documents qu'il souhaite avoir à disposition. Et à ce moment-là, cette commande va être progressivement, parce que c'est en train de se mettre en place, amenée à la médiathèque la plus proche de chez lui.
Voilà, donc c'est une mutualisation de l'ensemble des
documents. Et c'est une mutualisation
de
à la fin de l'ensemble des documents.
De tout ce qu'il y a dans les médiathèques.
Dans les médiathèques.
Du Grand Narbonne.
Voilà, tout à fait.
Voilà, bon, ça c'est intéressant, et de bien comprendre comment les choses fonctionnent. Donc rappelons-le, vous pouvez n'importe où dans le Grand Narbonne dire ce bouquin, on ne l'a pas dans notre commune, mais il est à Narbonne ou il est ailleurs, je souhaiterais y avoir accès.
Dans toutes les médiathèques qui ont intégré le réseau. Oui, donc ça se fait progressivement.
Qui joue le jeu, voilà, en quelque sorte. Hein.
Voilà. En sachant que nous avons quand même 37 bibliothèques ou médiathèques sur le territoire, hein, et que progressivement elles vont y adhérer. Donc vraiment, c'est parce qu'on pense aux documents, mais je crois qu'il y a énormément de renseignements sur les médiathèques. Il y a également tout ce qui est formation, tout ce qui est conférences enregistrées, concerts enregistrés que l'on peut utiliser. Enfin, on ne se rend pas compte de la somme de documents qui sont à disposition. Enfin, moi, pour moi, vraiment, la médiathèque, c'est le, je le dis souvent, c'est le lieu culturel de la mixité sociale et de la plus grande diffusion culturelle qui existe.
Et alors revenons un instant sur ce salon Livre et Jeunesse. Marie-Bal, vous l'avez évoqué en quelques mots, la préparation. Comment choisit-on les auteurs par exemple ?
Alors là,
difficile de choisir.
Là, honnêtement, c'est une équipe de professionnels, oui, qui choisit, l'Éducation nationale, je pense en tenant compte des programmes, mais également les éditeurs, les libraires, le service culturel du Grand Narbonne. Ils ont des réunions de travail. Ils ont des réunions de travail où ils choisissent ensemble avec les enseignants, les auteurs qui vont être les auteurs jeunesse. Voilà.
Donc le programme final, c'est l'émanation des souhaits et des propositions de tous ces gens.
Pour les auteurs jeunesse. Pour le reste, c'est le service culturel du Grand Narbonne qui porte l'intégralité de l'organisation et de la sélection.
Alors, citons quelques têtes d'affiche et quelques noms célèbres pour appâter le public, Marie-Bat.
Alors, peut-être pour les auteurs jeunesse, quand même, il faut parler de certains qui sont connus. Nicolas Ancion, qui réside près de Carcassonne depuis 2007, qui a eu le prix des lycéens. Françoise Delmont, qui est une écrivaine avec des écrits de fiction, mais qui se termine toujours par une note d'espoir et de confiance dans l'humanité. Claude Merle, Le Temps des loups. Il y a également Marie-Hélène Delval, auteure et traductrice chez Bayard Presse, dont elle a d'ailleurs été directrice. Elle privilégie tout ce qui est fantastique. Et puis, il y a deux temps de spectacles qui sont à la médiathèque. Donc, un temps de spectacle sur un conte et de la musique, le Astérios, la légende du Minotaure, par Michel Hindenock. Donc là, c'est le jeudi 11 mai à 10h30 et à 14h30, deux séances à la médiathèque.
Et ça se passe à l'auditorium de la médiathèque.
De la médiathèque. Et le vendredi, donc, par la compagnie qui est soutenue par la région Occitanie, Les Voisins du Dessus, Au-delà de ma mère. Et là, c'est Rosa Latouche qui raconte en images un voyage en Italie, le sien, accompagné de sa maman de 83 ans. Et avec des techniques simples et modernes à la fois, hein, un rétroprojecteur et un écran. Et là, c'est le vendredi 12 mai à 10h30 et 14h30, toujours à l'auditorium. Donc là, c'est ce qui concerne la jeunesse. Et puis, il y a également
le théâtre qui est mis à contribution.
Oui, mais pour la jeunesse, je voudrais quand même insister sur un autre partenariat avec l'École d'art plastique, une performance littéraire, plastique et musicale, Une heure à tuer, Benoît Séverac, auteur de romans et nouvelles sur la littérature policière, toujours, hein, avec un plasticien, Henri Lacotte, un guitariste, Gilles Renon, L'âge d'or du film noir. Et là, c'est le vendredi 12 mai à 18h30 à la médiathèque.
À la médiathèque toujours, voilà. Et alors, le théâtre.
Alors, sur le théâtre,
Marie-Christine c'est vraiment, Barreau, je crois.
Sur le théâtre, ce qui est vraiment le temps fort du Salon du Livre, c'est le récital La Fontaine-Brassens avec Marie-Christine Barreau et Jean-Pierre Arbon au Théâtre Cinéma. Donc ça, c'est le samedi 13 mai à 20h45. Là, vraiment, il s'agit de, je trouve très intéressant, cette connivence d'esprit entre deux auteurs à trois siècles d'écart. Un dialogue sur l'ample comédie des hommes.
Oui, est-ce que La Fontaine aurait pu imaginer qu'on le fasse fraterniser avec Brassens?
C'est l'ample comédie des hommes, pas des femmes.
De l'humain. Mais c'est vrai que nos acquis et le fait que la taille et les capacités de notre cerveau soient reconnues ne remontent pas si loin dans le temps. Donc, je crois que ce qui est important pour ce spectacle, c'est que nous avons fait le pari que ce spectacle s'adressait à toutes les générations, collégiens, adolescents, adultes. Et il y aura d'ailleurs une rencontre entre Marie-Christine Barraud et les collégiennes du collège Georges Brassens avant le spectacle.
Oui, elle se rendra
au collège Georges Brassens. Et l'après-midi, ils ont des invitations pour venir avec leurs parents au spectacle.
Voilà, c'est ce côté justement éparpillement qui est intéressant dans la mesure où beaucoup de lieux de la Narbonnaise sont impliqués.
Tout à fait. Je crois que ce salon du livre se veut un salon du livre ouvert où justement on essaie de mettre en commun, de fédérer autour de cet événement culturel, en sachant qu'il y a une vraie diversité culturelle. Puis moi, je suis très attachée aussi aux gens dont on parle moins, peut-être qui sont moins célèbres, comme Cédric Cyr, qui est un jeune auteur qui habite à Toulouse, un auteur fantastique qui est en train de devenir un auteur un petit peu reconnu maintenant. Puis bon, c'est
lui sera sous le chapiteau.
Oui. Mon coup de cœur. Alors là, je vais le dire, c'est Frank Pavlov. Il a publié une trentaine de romans, et là, je crois que c'est d'actualité. Il avait publié la nouvelle « Matin brun » contre les extrémismes, hein, et je pense que c'est un livre quand même qui a été traduit en 25 langues, 2 millions vendus en France. Et honnêtement, ça me paraît intéressant d'insister là-dessus. Bon, je ne sais pas si je dois parler de tout ce qui se passe en termes
tout, de... Ça sera difficile, d'autant plus qu'on annoncera en radio à mesure que les choses se passent.
Je pense que nous avons la chance d'avoir Jean Birbaum et Serge Moati sur une table ronde.
Également, oui.
C'est le patron de du supplément, voilà, des livres, qui a écrit un essai justement sur ce qui se passe en ce moment, tout à fait pertinent.
Ah, un silence religieux, voilà. La gauche face au djihadisme. Exactement. Et Moati, c'est justement sur les Juifs de France, pourquoi partir. Donc là, je trouve que c'est des thèmes d'actualité qui seront remarquablement présentés et où il y aura sous le chapiteau rencontre des possibilités d'échange. Et puis, bon, il y a également Victor Delarbol, la veille de presque tout, qui est très connu, qui est quand même un des maîtres du polar noir.
Polar noir, catalan, enfin, c'est vraiment...
Voilà, donc, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, l'événement phare de la culture. Mais ça n'est pas le seul, puisque Marie-Bad, vous êtes responsable de la culture au Grand Narbonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre tout au long de l'année ?
Alors, en fait, ma mission en tant qu'élu à la culture, c'est prendre en charge les équipements culturels, donc la médiathèque, l'école d'art plastique, le conservatoire, Amphoralis depuis 2012. Le Théâtre Saint-National, ce n'est pas en direct. En fait, nous versons une subvention importante. C'est une association qui le gère et avec aussi des préconisations de l'État, puisque c'est un théâtre scène nationale. Donc là, on ne l'a pas en gestion directe. Et puis, les deux temps que nous organisons, c'est le Salon du Livre et le Festival La Tempora.
Alors, La Tempora, c'est un festival éclaté sur pas mal de communes.
Oh, La Tempora, c'est vraiment le festival imaginé, conçu pour une agglomération. C'est-à-dire que le service culturel du Grand Narbonne choisit une trentaine de spectacles, des spectacles qui couvrent un peu tout, théâtre, musique du monde, cirque. Voilà, c'est un peu du spectacle vivant, hein, beaucoup de spectacles, de groupes qui se produisent. Musicaux. Ce catalogue est présenté lors de deux réunions que j'anime à l'ensemble des référents culture de chaque village. Donc on fait deux réunions pour le présenter. Les élus de chaque commune qui souhaitent y participer, en principe c'est une trentaine chaque année, émettent des vœux. Des souhaits.
Voilà, ils vont piquer dans le panier.
Voilà, ils choisissent ce qui est le plus adapté, puisque quand même c'est un spectacle qui est fourni clé en main, donc il y a aussi l'aspect technique. Hein. Ils choisissent ce qui est possible dans leur commune et ce qu'ils souhaitent pour le public de leur commune. Et à partir de là, le service culturel du Grand Narbonne essaie de donner satisfaction à leur choix, ce qui donne une programmation où quelquefois plusieurs spectacles sont produits de ce que nous avions sélectionné, d'autres ne sont pas retenus. Voilà, c'est la programmation, elle est faite un petit peu par les élus sur le terrain, dans un panel. Voilà. En sachant qu'une des contraintes, et j'y tiens beaucoup, et ça me paraît important, c'est qu'en fait, on ne reprogramme pas l'année d'après le même spectacle.
D'accord, donc il y a une vraie rotation, une diversité.
Ça, je trouve ça très important, parce que ce qui me paraît important dans la culture, et je crois qu'il faut le dire, c'est qu'on a la culture que l'on se transmet, la culture qui est connue, qui est reconnue, mais on a aussi l'innovation. Et on a besoin de ces deux pôles, et d'articuler ces deux pôles pour que l'entrée dans la culture fonctionne. Par exemple, la photographie et la bande dessinée, à un moment donné, n'étaient pas reconnues comme art, alors qu'actuellement, ils le sont. Donc, ce qui est difficile, je crois, pour les gens, mais à tous les niveaux, c'est de se rendre compte que tout ça est en mouvement. Et donc, même dans la culture, il faut maintenir ce mouvement, parce que si on ne met que de la culture reconnue, on ne forme pas et on ne met pas de l'argent sur l'innovation et on ne prépare pas l'avenir.
Ah, comme dirait c'est mon sentiment. Comme dirait un certain candidat, tout cela est en marche.
Un mouvement, oui, c'est vrai, oui.
Vous m'avez dit qu'il fallait être très réservé sur ce plan-là.
Oui, mais j'ai. C'est un mot français.
Oui, tu n'as fait aucune allusion.
Une expression politique. Absolument française que tout français moyen comprend. Alors, Marie Batte, on va terminer là-dessus. Vous êtes également maire de Bâche. D'ailleurs, pour être vice-présidente d'une communauté d'agglomération, il faut d'abord être élu municipal. Une question assez rituelle qu'on pose à beaucoup de maires que l'on reçoit dans cette émission. Le Grand Narbonne, l'agglomération a repris pas mal de compétences. Alors que reste-t-il à faire aux maires et qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur et qu'est-ce qu'ils font dans leur
quelles
dans leur
sont
commune.
Leurs compétences résiduelles.
Donc, vous à Bâge.
Alors je vous répondrai sur la culture d'abord, puisque la compétence culture du Grand Narbonne n'embrasse pas tout le monde culturel et qu'il nous reste sur la commune une compétence culture.
Oui, c'est une compétence dite partagée qui était aux frontières très très floues, qui permet effectivement à toutes les collectivités d'en faire tout un peu.
Mais c'est peut-être là aussi quand même quelque chose qui est peut-être intéressant. Mmh. Moi, du moins sur la commune de Bâge, on s'en saisit parce qu'on a une maison des arts, on a une galerie municipale.
Voilà, il se trouve que sur votre commune, il y a un lieu prestigieux qui fonctionne depuis longtemps.
Et nous avons quand même 3 galeries privées. Caviar, l'étendard, l'as-tu vu ? Donc vraiment, on a sur le plan culturel une vraie richesse de territoire. Mais en même temps, j'ai le souhait de continuer à avoir une programmation. Je pense en particulier à du théâtre, à certains concerts. Et dernièrement, nous avons, avec la Maison des Arts, justement, reçu Frédéric Lenoir pour une conférence avec Michel Tosi. C'était passionnant sur la philosophie. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant, et je reviens à mon propos tout à l'heure, parce que je trouve que dire que la culture pour tous, c'est important, ce qui est ressorti de ce débat philosophique, c'est que le questionnement de chacun sur le bonheur, la vie, la mort, c'est des questionnements fondamentaux sur comment on va vivre. Et on revenait là à des questions essentielles qui touchent tout le monde. Ce qui faisait que la philosophie ne devenait plus quelque chose d'élitiste, de réservé à une élite, mais c'était vraiment accessible à tous. Et il y avait plus de 180 personnes à Bâge.
Oui,
surtout avec un grand vulgarisateur, si je puis dire, il ne m'en voudra pas, en fait, du talent de Frédéric Lenoir.
Voilà. Et donc, en tant que maire, vous avez également un certain nombre d'autres prérogatives qui vous restent encore, Marie Batte.
Alors, sur les autres prérogatives, bon, ben, nous avons gardé la compétence urbanisme.
Voilà. On va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus, Marie Batte. En quelques mots, quelle est votre politique sur la volonté d'augmenter ou pas la population de Bâche, par exemple?
Alors, il me semble important d'augmenter la population du village. Mais il me semble important pour les élus d'en maîtriser cette augmentation. Et je souhaiterais, je ne sais pas si je vais y parvenir, puisque nous sommes en train d'avoir un dossier d'expropriation sur le seul terrain constructible sur la commune, mais je pense que ce qui est important, c'est que les élus se rendent compte que tout est lié. La qualité de l'urbanisme, avec la qualité de vie, avec les individus que l'on produit après. Moi, j'ai toujours cette vision à long terme. Si l'on a une maison sur un terrain avec des grands murs tout autour, ça n'a pas la même signification que si l'on a une maison avec la rue. Et je pense que tout ceci donne toute l'importance que l'on doit accorder à la qualité de l'urbanisme. Alors, je ne suis pas sûre d'y arriver, mais je ferai tout pour garder cette maîtrise.
Oui, un dernier mot,
oui,
Michel.
Une remarque, hein, effectivement, ce qui, contrairement à beaucoup d'autres, enfin, à certaines régions, disons, Bourgogne, Alsace, Fété et Pays Basque, on ne peut pas ne pas constater quand même, en fait, les dégâts produits par une urbanisation anarchique, justement pour essayer de ramener le plus de taxes d'habitation possible sur son propre territoire, dans nos cœurs de ville et dans nos cœurs de village. Dans beaucoup d'ailleurs de lieux, en fait, je ne dis pas Bâge, qui est encore préservé, c'est une véritable catastrophe esthétique.
Voilà. Sociale. En tout cas, Maribat a dit clairement qu'elle gardait les rênes, en quelque sorte, à ce niveau-là, sur la politique urbanistique de sa commune. Merci d'être venu nous parler à la fois de ce côté. Donc on le voit, les maires ont encore des responsabilités dans leur commune, et Dieu sait si elles sont importantes puisqu'elles concernent l'habitat. Merci donc d'être venu nous parler aussi de la culture, du salon Livre et Jeunesse qui va meubler la culture narbonnaise dans les quelques jours qui viennent. Le prochain invité sera Michel Pire. Alors on va prendre la suite en quelque sorte du processus évoqué tout à l'heure, des présidentielles, puis des législatives, puisque Monsieur Pire a fait savoir qu'il était de nouveau, entre guillemets, candidat et investi par ses responsables politiques. Merci de nous avoir suivis à ce Radio Barque numéro 29 et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.